Journal présenté par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonsoir Olivia et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la fin de vie d'Alain Coq ne sera pas retransmise sur Facebook, contrairement au souhait de cet homme atteint d'une maladie incurable et très incapacitante. Alain Coq a reçu le soutien de Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Le ministre de la Santé promet un accès aux tests Covid-19 facilité d'ici la fin du mois. L'épidémiologiste Catherine Hill appelle le gouvernement avant tout à définir enfin une stratégie de dépistage. Dans ce journal, nous serons à Port-Marly, dans les Yvelines, à l'université d'été de la droite républicaine. François Baroin s'est bien gardé de trancher la question de sa candidature à la présidentielle. Et puis aux États-Unis, la dernière surenchère en date de Donald Trump, supprimer la formation anti-racisme dispensée dans l'administration fédérale, trop clivante à ses yeux. Une question rôdait à Port-Marly, celle qui anime les débats politiques à droite depuis des semaines, alimentée par des rumeurs dans la presse encore ces derniers jours, et certains espéraient une réponse aujourd'hui au Port-Marly. La question: François Baroin sera-t-il candidat à la présidentielle de 2022? Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Rosalie, depuis devant, plutôt plusieurs centaines de jeunes sympathisants LR rassemblés pour les rendez-vous de la jeunesse du parti dans les Yvelines, le maire de Troyes a refusé de clarifier ses intentions.
Oui, et pourtant c'est rien de dire qu'il était attendu, François Baroin, par les jeunes sympathisants et militants, comme par les journalistes. Christian Jacob, le patron du parti, préfère en rire.
Je vais effectivement inviter à monter sur l'estrade quelqu'un qui a un petit peu de pression sur les épaules là, depuis quelques jours. Mais, vous savez, il a le sang-froid, la compétence, l'expérience, et puis un caractère bien trempé pour résister à tout cela.
Très applaudi, François Baroin ouvre les débats de l'après-midi par un discours aux allures de profession de foi avant de se livrer aux questions des militants seulement, souligne d'entrée de jeu Aurélien Pradier, le secrétaire général des LR.
Petite remarque, les journalistes ne font a priori pas partie des militants. Si vous voulez poser des questions, il y a une table à l'extérieur qui vous permet de prendre votre adhésion aux Républicains, et dès que vous aurez pris votre adhésion aux Républicains, vous pourrez avec grand bonheur poser toutes les questions que vous voulez.
Ils sont les bienvenus.
Et malheureusement pour lui, qui paraît-il a perdu son pari, il n'y a pas que les journalistes que la question intéresse.
Monsieur François Baroin, bonjour. Sacha Gaillard, vous avez une vision pour la France, vous avez ces valeurs que vous défendez corps et âme. Nous sommes beaucoup ici à les partager. Serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022?
Bon, je vais pas vous répondre.
Pas de précision, de clarification, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça n'est pas le moment, assure François Baroin. N'en déplaise aux impatients, il renvoie une nouvelle fois à son calendrier. Ça n'a pas bougé. Sa réponse, il la donnera à l'automne, après les sénatoriales, pas avant.
Merci à vous, Rosalie Lafarge, accompagnée que vous êtes d'Éric Audra. Tu duca, tu signore et tu maestro. Tu es mon guide, mon seigneur et mon maître. Édouard Philippe emprunte à Dante et rend hommage à Antoine Ruffnac, l'ex-maire du Havre. Antoine Ruffnac, décédé à l'âge de 81 ans, ex-ministre de Raymond Barre, député de la Seine-Maritime et adulé par bien des figures de la droite républicaine. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le centre de rétention administrative du Canet, dans le nord de Marseille, où plusieurs sans-papiers ont entamé une grève de la faim. Ils demandent la fermeture de ces établissements où, qui plus est, des gens sont malades du Covid et ne sont pas dépistés, soulignent les associations à l'origine de cette mobilisation. Les failles du dépistage ne concernent pas que les centres de rétention administrative, c'est toute la stratégie gouvernementale qui est sous le feu des critiques. Isabelle Souquet a sollicité à cet égard l'épidémiologiste Catherine Hill.
Il n'y a aucune stratégie, c'est l'auberge espagnole. Il s'agit de trouver des gens qui sont contagieux aujourd'hui, qui s'isolent le plus vite possible et qui s'arrêtent de contaminer autour d'eux. On ne se demande pas où sont le plus probablement les gens qui sont contagieux en ce moment. Et aussi, quels sont les gens qui ne doivent pas être en circulation et contaminer autour d'eux. Par exemple, le personnel des EHPAD ou les gens qui travaillent dans les prisons. Il ne faut pas introduire le virus dans les endroits où sa circulation est forcément catastrophique. On fait du chiffre. On dépense de l'argent pour rien. Et en plus, on rend maintenant les résultats beaucoup trop tard. Le virus va vite. La plupart des gens sont symptomatiques au bout de 5 jours et sont plus contagieux 5 jours après avoir été symptomatiques. Donc si vous attendez qu'ils soient symptomatiques le 5e jour, qu'ils aillent chez le médecin le 6e jour, qu'ils soient testés le 7e, et qu'on leur donne les résultats 3 jours après, on leur dit qu'ils sont contagieux parce qu'ils ne sont plus contagieux. Donc ce test-là ne sert à rien.
Comment est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce que vous préconiseriez?
Déjà, il faut organiser, avoir une stratégie de test qu'on n'a pas. Donc je ne peux pas définir une stratégie nationale en 5 minutes, mais évidemment, il faut une stratégie. Il faut tester encore plus de gens, Un million, c'est pas suffisant, et encore plus vite. Et donc, il faut organiser l'affaire d'une façon assez différente.
Est-ce que ça veut dire que ça passe aussi beaucoup par l'organisation des prélèvements et des laboratoires?
Évidemment. C'est pas la peine d'aller faire des tests dans des endroits où il y a très très peu de virus en circulation. Et on peut aussi trouver l'endroit où le virus circule le plus en cherchant le virus dans les eaux usées des égouts. Il y a plein de façons d'aborder le problème.
L'épidémiologiste Catherine Hill avec Isabelle Souquet. Alain Coq a pris acte à la mi-journée de la décision de Facebook de bloquer la diffusion en vidéo de ces derniers instants. Facebook rappelle que ces règles ne permettent pas la représentation de tentatives de suicide. Alain Coq, atteint d'une maladie incurable qui le cloue au lit depuis des années, en phase terminale depuis 34 ans, selon sa propre expression, a cessé ses traitements et de s'alimenter la nuit dernière. Lui qui a bien l'intention d'attirer l'attention sur cette problématique complexe a reçu le soutien de Jean-Luc Romero-Michel, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.
On ne peut que l'encourager. Vous savez, quelqu'un qui va se laisser mourir de faim et de soif, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, je suis allé le voir cette semaine pour lui dire « mais tu sais que ça va être très difficile, il est très déterminé, c'est son choix ». Et je trouve que c'est un choix très, très courageux. Et ce choix, il le fait maintenant plus vraiment pour lui. Il le fait, je pense, pour chacune et chacun d'entre nous, pour que nous, nous ne nous retrouvions pas dans des situations comme il est aujourd'hui, à savoir souffrir et ne pas avoir de réponse que puisse lui donner la législation pour pouvoir partir comme il le souhaite. Malheureusement, toutes ces affaires qui ont pointé les problèmes de nos législations, le problème du fait qu'on ne prenait pas en compte la volonté des personnes, n'ont pas fait avancer les politiques. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a aucune solution à lui donner. Cette personne, on la laisse à elle-même. Et je pense que par ce geste fort qu'il souhaitait faire, qui était de montrer son agonie, pour montrer à quel point les pouvoirs publics étaient en dessous de tout, parce que je crois que c'est eux qui sont aujourd'hui à pointer du doigt. Pas Alain Coq qui, lui, en est contraint à cette extrémité pour démontrer que l'État et la législation actuelle ne lui donnent aucune solution.
Des propos recueillis par Adrien Paluet. En Biélorussie, des dizaines d'étudiants arrêtés aujourd'hui dans les rues de la capitale, Minsk, où des milliers de femmes ont de nouveau défilé pour réclamer la démission de l'autocrate Alexandre Loukachenko. La Maison Blanche creuse un sillon dangereux, moyennant bien des surenchères. Et toujours au même chapitre, le président américain Donald Trump vient d'ordonner de supprimer les formations antiracisme dispensées dans l'administration fédérale. New York, Benjamin Elie.
C'est écrit dans cette note du Bureau de la gestion et du budget de la présidence rendue publique hier. Donald Trump exige que les agences fédérales cessent d'utiliser l'argent des contribuables pour des sessions de formation véhiculant, selon la Maison-Blanche, une propagande clivante, anti-américaine, évoquant le privilège blanc. Cette note pointe du doigt les millions de dollars dépensés et affirme que dans ces formations, les fonctionnaires apprennent que pratiquement tous les blancs contribuent au racisme. Une décision qui s'inscrit donc dans un contexte de tension croissante à l'approche de la présidentielle, alors que les manifestations, les affrontements liés au mouvement contre le racisme Black Lives Matter continuent de secouer le pays. Donald Trump ne cesse d'agiter le spectre du chaos et de l'anarchie pour galvaniser ses partisans. Joe Biden, lui, joue la partition inverse, bien sûr. Cette semaine, dans une église de Kenosha, Wisconsin, il a promis de se battre pour l'égalité raciale. Il faut s'attaquer au péché originel de ce pays, dit le candidat démocrate, c'est-à-dire l'esclavage et tous ses vestiges.
Déclaration de bonnes intentions de la part de la junte au pouvoir au Mali depuis la mi-août et invitation consensuelle à la faveur du lancement ce matin d'une vaste consultation avec les partis politiques et la société civile sur l'avenir de la transition. Valérie Crova a assisté à Bamako à cette cérémonie d'ouverture.
C'est au son de l'hymne national malien que s'est ouverte cette journée de concertation. Pour la première fois depuis le coup d'État du 18 août, des personnalités civiles, religieuses et bien sûr militaires étaient réunies dans une même salle au Centre international de conférences de Bamako. Des personnalités triées sur le volet. Puis le colonel Ngao, vice-président du Comité national pour le salut du peuple, a pris la parole.
Depuis le 18 août 2020, nous aborderons une nouvelle ère de l'histoire de notre pays. Cette journée de réflexion permettra une large appropriation par les Maliens des thèmes de référence relatifs à l'organisation de cette importante concertation nationale. L'agenda du Comité national pour le salut du peuple est donc clair et précis. Il s'agit de contribuer à la reconstruction de notre pays à travers la garantie de la poursuite du processus démocratique.
Un discours qui se voulait rassurant alors que la communauté internationale regarde attentivement la situation au Mali depuis le renversement de l'ancien président Ibeka. Les consultations qui visent à déterminer la durée de la transition et qui, d'un civil ou d'un militaire la conduira, se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Valérie Crova, Bamako, le temps de demain pour la France métropolitaine, variable alternant pluie et éclaircie. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Jacques Hubert.